France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, c'est France Musique. Bienvenue dans nos rendez-vous de l'été qui célèbrent toutes les musiques et leurs artistes. Dans un instant, place à Musique Matin jusqu'à 9h avec Clément Rochefort. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle semaine de Musique Matin. Nous sommes le lundi 26 juillet 2021 et nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec de nouveau du voyage et beaucoup de musique pour l'image aujourd'hui. Au fil de nos rendez-vous habituels à 7h40, les infos musicales avec un reportage sur la mise en application du pass sanitaire dans les festivals, Val et autres salles de concert. À 7h50, dans le jeu de l'été, a gagné aujourd'hui le disque Mantra de Stockhausen par le pianiste Frédéric Neuburger et Jean-François Esser. Et puis à 8h, le journal de Mathilde Cariou. À 8h10, le Tour de France des festivals qui nous entraînera entre Alpes et Provence au festival de Chaillol. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et à 8h30, notre invité du jour sera le compositeur Mathieu Lambollet qui signe notamment la bande originale de la série Lupin dont la deuxième saison vient de sortir sur Netflix. Mais pour commencer la semaine du bon pied, c'est-à-dire sur un air de danse tout en conjurant la chaleur de l'été direction l'Irlande. Mais l'Irlande baroque et traditionnelle avec les Curious Parts pour un set de 3 gigs virevoltantes. Bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique.
Thank you.
Un peu de fraîcheur celtique, ça fait du bien. En l'occurrence, c'était trois traditionnels, trois airs irlandais. Marion Hill, The Lads of Duns et Port Porrick, interprété par les Curious Parts du génial violoniste Alix Boisvert. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 7h36.
Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, ein Fischer saß daran, sah nach der Angel voll kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sitzt und wie er lauscht, teilt sich die Flut empor. Aus dem bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib hervor. Sie sah zu ihm, sie sprach zu ihm: Was lockst du, meine Brut? Mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf in Todesglut. Ach, wüsstest du, wie's Fischlein ist, so wohl ich auf den Grund. Du stiegst herunter, wie du bist, und würdest erst gesund. Sich die liebe Sonne nicht, der Mond sich nicht im Meer, kehrt Wellen atmend ihr Gesicht nicht doppelt schöner her, lockt dich der tiefe Himmel nicht, das feucht verklärte Blau, lockt dich dein eigen Angesicht nicht. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, netzt ihm den nackten Fuß. Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie bei der liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm, da war es um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sang hin und ward nicht mehr gesehen.
Der Fischer Weise, la tranquille mélodie du pêcheur de Franz Schubert sur un texte de Goethe, c'était la voix du ténor Jan Bostrich avec Julius Drake au piano.
C'est l'été sur France Musique.
Il est 7h39 dans Musique Matin, c'est l'heure de l'actualité musicale. Antoine Lagagne, chef de musique de la Garde républicaine, a remis sa démission. Elle était effective au 15 juillet, le lendemain des cérémonies de la fête nationale. Saxophoniste, il avait été chef de la musique du 43e régiment d'infanterie de Lille avant d'être nommé à la Garde en juillet 2010. Antoine Lagagne est parti enseigner la musique en Afrique dans la droite ligne du chef de musique Jean Avignon dans les années 1970. Au festival de Verbier en Suisse, Christian Merlin du Figaro revient sur les débuts compliqués de l'édition l'édition 2021 du festival à cause du Covid. Des difficultés qui se sont avérées être une aubaine pour le critique. En effet, à quelques jours de l'ouverture du festival, un jeune instrumentiste de l'orchestre du festival était testé positif au Covid-19 après avoir malheureusement contaminé d'autres musiciens. Il a fallu dissoudre l'orchestre et trouver un plan B. Christian Merlin voit le côté positif de la chose. À quelque chose, malheur est bon. Le départ précipité du très envahissant Gergiev, je cite, et de l'orchestre aura permis de focaliser l'attention sur tout le reste. Or, le festival de Verbier est une ruche où il se passe toujours quelque chose entre récital, musique de chambre et classe de maître, souvent en même temps dans des lieux différents, sans parler des concerts des deux autres orchestres à demeure, soudain propulsés au premier plan. Le Junior Orchestra est composé de musiciens âgés de 15 à 18 ans. Seule ombre au tableau, relève Christian Merlin, clairsemé malgré l'absence de passe sanitaire, le public n'est pas encore revenu. Voici un problème qui revient sans cesse dans l'actualité depuis des années, qui n'a pas l'air de s'améliorer, la difficulté des musiciens avec leurs instruments dans les transports. Un collectif d'une centaine de musiciens a publié ce week-end une tribune dans Le Monde pour dénoncer une situation ubuesque et kafkaïenne. Les contrebassistes, les violoncellistes, les luthistes, les harpistes galèrent en avion, en taxi, en métro, et aujourd'hui, l'accès au train leur est de plus en plus souvent interdit. Pour ceux qui voyagent avec de grands instruments, prendre le train est devenu plus stressant que de se produire sur scène. Toujours au nom de la sécurité des voyageurs, on leur demande même de descendre sans discussion. C'est un règlement de bord qu'il exige, l'instrument étant trop volumineux. Il ne figure pas dans la liste des bagages hors format acceptés dans le train, alors que les skis, les surfs et les poussettes le sont. Un appel urgent est lancé à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et au ministre délégué de la transition écologique et en charge des transports, Jean-Baptiste Djebbari, pour trouver une solution. Et enfin, vous le savez, depuis mercredi dernier, les festivaliers ne peuvent plus assister aux concerts sans présenter un pass sanitaire valide. Cette nouvelle mesure annoncée lundi 12 juillet par Emmanuel Macron a dû être intégrée à l'organisation des festivals en un temps record. Premier bilan de cette mise en application signée Odjiger.
Le 21 juillet dernier, les festivals ont dû mettre en place le contrôle des pass sanitaires, désormais obligatoire pour les événements publics accueillant plus de 50 personnes. Cette nouvelle contrainte s'est accompagnée d'une tolérance annoncée mercredi par le Premier ministre Jean Castex, prévoyant un délai d'une semaine avant l'application des sanctions. Marjorie Jalado, secrétaire générale de l'Abbaye aux Dames pour le Festival de Saintes.
Nous nous étions mis en ordre de bataille pour pouvoir assurer un contrôle des passes. Sur chaque concert, on a placé une équipe de 4 bénévoles qui étaient en charge de la vérification. Notre abbaye est située en cœur de ville, donc on avait pris contact avec des pharmacies alentour qui avaient accepté de réserver des créneaux d'urgence pour des spectateurs qui n'avaient pas pris de précautions et qui souhaitaient pouvoir assister au concert dans les dernières minutes.
Au festival itinérant de Chaillol, dans les Hautes-Alpes, la logistique ne permettait pas de mettre en place un stand de test à l'entrée des concerts. Michael Dian évoque néanmoins une organisation complète autour du pass vaccinal.
Il y avait 2 personnes de l'équipe qui avaient téléchargé l'application sur leur smartphone et je dois dire que ça fonctionnait très bien, ça prend 3 secondes. On a un très bon réseau vraiment partout, y compris dans des coins assez éloignés. Éventuellement, on avait prévu, si des gens présentaient un pass non valide ou des difficultés, parce que pris de court, un espace pour discuter avec eux, pour faire un peu de pédagogie. Et donc on s'est dit, on va accueillir quand même les gens qui ne sont pas en mesure de présenter un pass sanitaire de manière exceptionnelle pendant quelques jours, en les entrer dans la salle en étant masqués.
En marge de cette organisation généralisée, le festival 1001 notes en Limousin fait le pari de proposer des concerts balades limités à 50 personnes avec le musicien Thibaut Reznicek. L'occasion d'oublier le masque et le pass sanitaire le temps d'une promenade aux alentours. Albin Delatour, directeur du festival.
Le violoncelliste part avec son violoncelle, sa boîte, et il joue une pièce à chaque fois dans un lieu différent. Ça permet de faire des concerts dans des lieux complètement exceptionnels, d'aller où on veut et puis d'oublier un petit peu justement les conditions sanitaires. Le but de 1001 notes, c'est d'essayer de s'adresser à tous les publics, au public jeune. Et justement, le public jeune, forcément, c'est le public qui n'est pas vacciné. C'est pour eux que c'est le plus pénible. Et le principe d'un festival, c'est d'aller à plusieurs concerts. Pour les personnes, c'est un petit peu détestable de se faire contrôler tous les jours.
D'autres festivals sont encore au stade de la préparation. À partir de mercredi prochain, la souplesse ne sera plus de mise et les festivals pourront être sanctionnés s'ils n'appliquent pas le protocole défini.
Musique. L'entrée et la danse des tailleurs, cet extrait du Bourgeois Gentilhomme de Richard Strauss, interprété par la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Rudolf Kempe, une pièce qui venait couronner ce reportage sur l'application du pass sanitaire dans les festivals, le premier bilan par Aude Gigère. Merci d'être avec nous ce matin, il est 7h50, c'est l'heure de tenter de gagner encore un beau CD ce matin. Alors, à gagner aujourd'hui le disque Mantra des pianistes Jean-Frédéric Neuburger et Jean-François Esser, disque aussi sur lequel on trouve Serge Lemouton à l'électronique, un disque consacré à cette grande fresque Mantra de Karl-Heinz Stockhausen, inspiré par le principe du mantra indien, cette prière répétée un grand nombre de fois. Stockhausen n'utilise donc qu'une seule formule mélodique à deux voix et il la répète inlassablement en la modifiant, le tout avec un traitement électronique du son et des interventions de petits petites percussions qui sont jouées par les pianistes. Le résultat, eh bien, c'est cette grande fresque de plus d'une heure, propre à vous mettre dans un état de transe ou d'hypnose. Pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre en nous écrivant via l'onglet « Contactez-nous ». C'est sur la page de l'émission Musique Matin, sur notre site internet francemusique.fr. Vous n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées complètes si vous souhaitez faire partie des gagnants, ou en tout cas du tirage au sort. Voici la question. En 1995, quel célèbre quatuor à cordes s'est prêté au jeu de la création de Helicopter Streichquartett de Stockhausen, pièce pour un quatuor à cordes, 4 hélicoptères et un équipement audio et vidéo? Est-ce qu'il s'agissait du quatuor Arditi, du quatuor Albanberg ou du quatuor Borodin? En 1995, quel quatuor a créé cette pièce mythique de Stockhausen, Helicopter Streichquartett? Est-ce qu'il s'agissait du quatuor Arditi, du quatuor Albanberg ou du quatuor Borodin? C'est parti, c'est à vous de jouer. Vous avez jusqu'à 8h50 pour participer. Un extrait de Mantra de Karl-Heinz Stockhausen, c'est la deuxième partie, répétition régulière avec Jean-François Esser et Jean-Frédéric Neuburger au piano, Serge Lemouton pour le traitement électronique. Cet extrait de ce disque qui est à gagner ce matin, je vous rappelle la question en 95. Quel célèbre quatuor à cordes s'est prêté à la création de Helicopter Streichquartett de Stockhausen? Le quatuor Arditi, le quatuor Albanberg ou le quatuor Borodin? Vos réponses jusqu'à 8h50 sur francemusique.fr via la page de Musique Matin. À noter aussi que Jean-Frédéric Neuburger sera en concert le 2 août prochain au Festival de la Roque d'Anteron dans un récital Bach, Debussy et Chopin. 7h55, merci d'être avec nous ce matin. Petit point sur les nouvelles émissions de l'été. Et si, voilà une question qu'on se pose souvent, alors même qu'on ne peut rien changer au cours des choses, mais on pourrait l'imaginer pour le plaisir. C'est ce que vous propose Laurent Villarem tous les dimanches de l'été à 17h30 dans les Uchronies musicales. Et si Beethoven n'était pas devenu sourd, et si Ravel n'avait pas écrit le Boléro, et si Clara Schumann avait été un homme, et si Boulez avait écrit un opéra, et si Shostakovich s'était enfui du RSS, et si Nina Simone avait été acceptée à la Juilliard School? Autant de questions auxquelles Laurent tente de répondre avec sérieux, logique, mais aussi avec fantaisie. Dimanche prochain, et si la Malibran n'était pas tombée de cheval?
et toujours tambour bâton, tambour bâton, tambour bâton.
Rataplan, Maria Malibran, c'était la voix de Cecilia Bartoli avec Benjamin Foster au tambour et l'orchestre La Cynthia placé sous la direction d'Adam Fischer. Alors si la Malibran n'était pas tombée de cheval, que se serait-il passé? Réponse dimanche prochain dans les Uchronies musicales à 17h30 avec le camarade Laurent Villarem.
Nous avons fêté son départ comme directeur musical de l'Opéra de Paris le 2 juillet dernier sur France Musique, mais il revient sur nos ondes ce soir à 20h pour diriger les maîtres chanteurs de Nuremberg, Die Meistersinger von Nürnberg de Richard Wagner. Philippe Jordan sera dans la mythique fosse du Palais des Festivals de Bayreuth à la tête d'une flamboyante distribution. Un opéra à ne pas manquer depuis la Verte Colline et à écouter sur France Musique et francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux avec les oiseaux qui gazouillent. Bienvenue à tous sur France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure du journal avec Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire a été adopté cette nuit par le Parlement. 156 voix contre 60 et 14 abstentions. Le pass est déjà nécessaire pour entrer dans les lieux de culture comme les cinémas, les piscines ou les musées. À partir du mois d'août, il le sera aussi pour l'ensemble des lieux publics, notamment les cafés, les restaurants, les trains ou encore les centres commerciaux sur décision du préfet. À noter que jusqu'au 30 août, les mineurs ne sont pas concernés par le pass sanitaire puisque la vaccination n'est ouverte aux 12-18 ans que depuis le 15 juin. Et par ailleurs, les mineurs de 16 et 17 ans peuvent désormais se faire vacciner sans autorisation parentale. Le projet de loi rend également obligatoire la vaccination des soignants. Finalement, il n'y a pas de licenciement pour ceux qui ne sont pas en règle, mais une suspension du contrat et du salaire, des mesures qui laissent la profession un peu perplexe, Boris Allier.
Des soignants dans le flou, que va-t-il se passer pour ceux qui refusent malgré tout la vaccination? Thierry Amouroux du syndicat des professionnels infirmiers n'a pas vraiment la réponse.
On a du mal à comprendre quelle est cette situation de No Man's Land. Ce salarié suspendu sans salaire, ben il fait quoi pour vivre? Il n'est pas licencié, donc il n'a pas droit au chômage. Il ne peut pas théoriquement aller travailler ailleurs. C'est assez incompréhensible et on reconnaît tout à fait la technostructure qui a des idées inapplicables sur le terrain.
Une inquiétude partagée par l'urgentiste Christophe Prudhomme, responsable CGT en Seine-Saint-Denis, il craint une désorganisation dans certains hôpitaux.
On travaille tellement à flux tendu qu'une personne en moins dans une équipe peut faire écrouler la vie du service. C'est ça qui nous inquiète. Donc oui, il faut que les soignants se vaccinent, mais pourquoi imposer la vaccination plus aux soignants qu'aux policiers ou à d'autres catégories qui sont en contact avec la population ? En fait, c'est un non-sens.
Et il en est certain, le dialogue et le débat auraient été plus efficaces pour convaincre les récalcitrants.
Un ingénieur de la SNCF est décédé hier en fin de journée dans un éboulement à Massy-Palaiseau. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet effondrement. Le trafic a été interrompu pendant plusieurs heures hier entre la gare Montparnasse et le sud-ouest de la France. Il reprend quasi normalement ce matin. 195 pays se penchent aujourd'hui sur le nouveau rapport du GIEC. Alors que les catastrophes climatiques s'enchaînent partout dans le monde ces dernières semaines, les experts climat de l'ONU préparent une série de références qui devraient confirmer leurs appels à agir au plus vite. Le rapport sera publié le 9 août en prévision de la COP26 qui doit avoir lieu à Glasgow en novembre. Les relations entre la Chine et les États-Unis dans une impasse. À l'occasion de la première visite d'une responsable de l'administration Biden, un dirigeant chinois a accusé Washington de voir en eux un ennemi imaginaire et de diaboliser le pays. Des propos qui rappellent les premiers contacts difficiles entre les deux gouvernements en Alaska. Après un passage au Japon et en Corée du Sud, Wendy Sherman doit aborder plusieurs questions avec la Chine et notamment celle de la concurrence. En Tunisie, le président Kais Saied a décidé hier soir de suspendre les travaux du Parlement pour un mois. Il a également limogé son premier ministre. Dans la journée, des milliers de Tunisiens étaient descendus dans la rue pour dire leur colère face à la gestion de la crise et aux luttes de pouvoir qui agitent le pays. À Tunis, c'est un reportage de Lilia Blaise.
Des klaxons dans les rues et des Tunisiens qui sortent en plein couvre-feu pour célébrer ou questionner ce qu'il s'est passé dans la soirée de dimanche soir. Après une journée de manifestations contre le pouvoir en place, le président de la République a déclaré via sa page Facebook qu'il limogeait Hichem Mechichi, le chef du gouvernement, et qu'il allait nommer un successeur en charge de former une nouvelle équipe ministérielle dans les jours à venir. Nous allons annoncer d'autres mesures pour sauver la Tunisie. Le peuple tunisien doit continuer sa révolution en toute légitimité et nous appliquerons la loi, a-t-il déclaré, en prenant appui sur l'article 80 de la Constitution qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays. Mais le texte n'est pas clair sur ces mesures et rien n'est dit sur le limogeage du chef du gouvernement, la levée de l'immunité des députés ou encore le gel du travail du Parlement, comme l'a déclaré Kais Saied. Selon le texte, le président doit aussi se référer à la Cour constitutionnelle qui n'existe pas pour le moment en Tunisie. Actuellement, les réactions des Tunisiens sont mitigées, certains ne savent pas s'ils sont en train d'assister à un coup d'État ou à un nouveau souffle face au blocage politique qui durait depuis des mois.
Et au Mali, l'homme suspecté d'avoir tenté d'assassiner le président Assimi Goïta est décédé au cours de sa garde à vue. L'attaque avait eu lieu le 20 juillet devant la grande mosquée de Bamako. Son identité n'a pas été dévoilée. Un mot du temps pour finir. Il reste perturbé ce matin avec de la pluie sur le nord du pays, des orages sur les Alpes et les Pyrénées. Le ciel sera quand même plus dégagé sur la moitié sud. Côté température, les minimales iront de 13 à 17 degrés. On aura entre 21 et 26 dans le sud-ouest et jusque 32 degrés sur le sud-est et la Corse. Il est 8h05 sur France Musique et tout de suite vous retrouvez Musique Matin avec Clément Rochefort.
Merci Mathilde Cariou. Prochain journal à midi sur France Musique et puis moi je vous retrouve demain matin à 8h. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Dans quelques minutes, à 8h10, on prend la route du Tour de France des festivals, direction les Alpes, avec le directeur du festival de Chailleul, les Alpes et la Provence, bien sûr. À 8h25, l'été des frères Jacques. À 8h30, notre invité du jour, le compositeur Mathieu Lambollet, qui signe la musique de la série Lupin, dont la deuxième saison est sortie au début de l'été. Et si vous êtes du côté de la station de sport d'hiver des Arcs, à Bourg-Saint-Maurice, dans la vallée de la Tarentaise, n'hésitez pas à passer une tête à l'Académie Festival Les Arcs qui continue jusqu'au 30 juillet. Un festival qui réunit des musiciens confirmés et des jeunes talents qui viennent se perfectionner auprès d'eux et surtout donner plein de concerts. Avec cette année une thématique autour du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns et un nouveau compositeur en résidence, Benoît Menute, dont on pourra entendre la création mondiale de son de sa nouvelle œuvre Real Soul pour clarinette et quatuor à cordes. Ce sera ce soir à 21h sur place ou sur la nouvelle plateforme numérique du festival, l'espace Roger Godinot. Toutes les infos sont sur le site du festival www.festivaldesarcs.com. Le syllogisme final de Quanta, une pièce de Benoît Menute avec la voix de Maya Villanueva, l'ensemble Syntonia avec Stéphanie Morali au violon, Patrick Langot au violoncelle et Romain David au piano. Benoît Menute, dont on pourra vivre ce soir au Festival Les Arcs, la création de sa toute nouvelle pièce Rehearsal pour clarinette et quatuor à cordes.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Il est 8h10, on prend tout de suite la route du Tour de France des festivals. Et ce matin, direction les Alpes et la Provence, puisque nous allons au festival de Chailleul, dont la 25e édition a déjà commencé le 17 juillet dernier. Elle se poursuit jusqu'au 12 août prochain. Nous sommes au téléphone avec son directeur artistique, Michael Dian. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Avant de commencer, parlez-nous un petit peu de cette région dans laquelle vous êtes. Alors c'est quoi ? C'est les Alpes ? C'est la montagne ? Ou c'est déjà la Provence avec ses champs d'oliviers ? On est où exactement ?
C'est exactement cet entre-deux magnifique entre Alpes et Provence. C'est comme ça qu'on l'a décrit d'ailleurs dans notre au festival. Entre Alpes et Provence, une itinérance musicale. C'est vraiment, on a déjà quitté la Provence, on n'est pas encore dans le massif alpin, on y aborde. Et c'est un territoire d'entre-deux extrêmement riche, très doux, avec des vallées très ouvertes. Et la vallée du Champsaur est particulièrement signée par son bocage très 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 connu, très riche. Hein. C'est un très bel endroit.
Hein, on est près de Gap, hein, c'est ça. C'est pour donner un petit peu des références géographiques plus connues.
C'est tout le pays autour de Gap. C'est tout le pays autour de Gap que nous animons musicalement depuis 25 ans, c'est-à-dire les cinq vallées qui font le pourtour de Gap. La vallée du Champsaur, bien sûr, le Val-Godemar, le Buëch des Vauluis, Talar-Barcelonnette, et puis la vallée de l'Avance, quand on va vers Serre-Ponçon et l'Italie. C'est un grand pays, un vaste pays rural de montagne.
Michael Dion, il n'y a donc pas un lieu de concert, mais plusieurs lieux. On peut en profiter pour faire du tourisme dans la région, d'un concert à l'autre, évidemment, on peut se balader. Les concerts ont lieu où, majoritairement, ce sont des églises du coin, des musées, où est-ce que ça se passe ?
C'est cette idée d'une circulation à la fois dans les répertoires et dans le territoire. C'est vraiment une invitation à considérer l'un par l'autre. Et donc, on est accueillis, c'est plutôt nous d'ailleurs, les musiciens, l'organisation, qui sommes accueillis chaque jour, chaque soir, pendant un mois, dans les communes, par les habitants de ces vallées. Et on a une quarantaine de communes qui sont partenaires sur l'année, parce qu'on a une saison sur l'année, dont le festival de Chaillol est l'événement estival de temps fort. Mais c'est une scène conventionnée, donc il y a tout un ensemble de missions. Mais c'est en effet plutôt dans le patrimoine rural local qu'on aime jouer, des petites chapelles, des petites églises, parfois des salles des fêtes qu'on investit, qui sont des beaux endroits.
Michael Dian, il faut le dire, le festival de Chaillol, alors c'est vraiment la caractéristique du festival de Chaillol, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, c'est très varié, on a du classique, du jazz, des musiques traditionnelles, c'est ça un petit peu l'axe de la programmation.
L'axe de la programmation qui réunit, qui donne une cohérence à toutes ces entrées esthétiques, c'est la création musicale, c'est-à-dire la diversité des approches de cette notion de création musicale qu'ici nous avons définie, élargie, en considérant qu'elle n'était pas appuyée sur une grammaire en particulier, mais sur une intention de renouveler, d'interroger des héritages, des patrimoines, que ce soit des patrimoines qui viennent de l'oralité, qui viennent de l'histoire ou de la mémoire, ou du crayon des compositeurs qu'on aime tant ici aussi. Donc c'est vraiment les musiques de création qui sont mises à l'honneur, encore une fois dans une très belle circulation entre les genres, les esthétiques, pour montrer qu'au fond c'est une énergie qui saisit les artistes, qui sont parfois des compositeurs, mais qui sont parfois des musiciens qui ne se disent pas compositeurs, mais qui produisent leur geste musical. Et c'est à cet endroit qu'on essaye de faire dialoguer toutes ces approches de la création des musiques d'aujourd'hui.
Des compositeurs dont certains sont en résidence d'ailleurs, hein, à l'espace de Chaillol toute la saison, et dont on va entendre les créations pendant le festival.
Oui, vous parliez tout à l'heure, juste à l'instant, de Bonhomme Minute, qui est un fidèle du festival de Chaillol, mais il y a énormément de compositeurs et d'artistes qui sont en résidence tout au long de l'année. Et là, on a actuellement 5 résidences pendant le festival qui vont rythmer ce mois de concert. On a aujourd'hui Christian Sébil, compositeur, directeur du groupe de musique expérimentale de Marseille, avec Jean-François Vraud, qui est un violonneux des musiques de l'oralité, tradition populaire du violon. Et puis Mikaïu Montanaru, qui est un des grands spécialistes des flûtes, du galoubet tambourin au départ. Et écoutez, ces trois artistes-là, qui sont aussi des compositeurs, proposent là en ce moment un travail qui va être donné mardi soir, qui sera une aventure sonore à partager, vraiment un moment assez exceptionnel. Donc on est vraiment sur cette idée d'accompagner en production, avec du temps de travail, avec le calme aussi qu'offrent ces vallées extrêmement propices à l'inspiration, et accompagné par le travail d'une équipe, des temps propice à l'élaboration d'un geste musical.
Michael Dian, on n'a pas le temps, évidemment, on ne va pas dérouler tout le programme des concerts qui restent à entendre jusqu'au 12 août, peut-être un ou deux que vous avez envie sur lesquels vous avez envie de mettre un peu plus de lumière.
Oui, alors peut-être tout simplement les prochains. J'ai parlé du trio Ici et d'après, hein, cette réunion des trois compositeurs que je viens de citer. On reçoit aujourd'hui Vincent Berdmander, qui est ce grand héros de la mandoline qui anime beaucoup la cité phocéenne, avec Grégory Daltin. Et on a passé commande à François Rosset, qui vient d'arriver hier soir, un grand improvisateur-compositeur. Ça sera pour ce soir. On accueille aussi le résultat d'une très belle résidence qui a eu lieu en hiver. Franck Tortillet et Micha Fitzgerald Michel pour un duo vibraphone et guitare, Les Heures Propices. Vanessa Wagner et Noémie Boutin seront elles aussi en résidence pour une semaine de travail qui donnera lieu à un concert.
Piano et violoncelle.
Oui,
voilà,
exactement.
Je précise. Et plein d'autres rendez-vous qu'on peut retrouver sur le site du Festival de Chailleul, hein, qui est très très bien fait. Même la brochure est absolument précise. On a tous les renseignements. Un dernier petit mot très très rapide pour dire qu'il y a aussi quelques à côté. Les dimanches, des sortes de concerts surprises où on vous envoie un petit SMS au dernier moment, c'est ça? Ou alors on peut aller voir sur le site, le lieu du festival.
Voilà. En fait, l'idée d'un festival de territoire, c'est aussi d'interroger la derrière la carte postale magnifique, hein, la richesse de ce qui se passe dans un territoire. Et hier, par exemple, nous étions au domaine allemand, qui est un vignoble magnifique, qui fait un travail remarquable sur la vigne et un cépage spécifique des Hautes-Alpes. Et on a réfléchi avec la propriétaire de ce vignoble comment articuler, comment faire résonner, conjuguer le travail du vin et le travail du son. Et donc, il y avait effectivement un moment un peu précieux comme ça, qui est communiqué au dernier moment, parce qu'on réserve ça pour 50 personnes, sinon ça change de nature. Il y a énormément d'à côté, comme vous le disiez, tout ça est à retrouver sur le site.
Sur le site du festival, bien sûr. Voilà, il y a aussi des rencontres qui sont organisées avec les musiciens, sorte de conférences, de rencontres sur tous les sujets qui touchent la musique et la création. Merci, Michael Dian, d'avoir été au téléphone avec nous ce matin. Vous souhaite une très bonne fin de festival, avec grand plaisir. Et puis, vous parliez tout à l'heure de Vincent Berdemander, ce mandoliniste génial, qui, il y a quelques années, a rencontré le grand Vladimir Cosma. Ils ont travaillé ensemble, et voici ce que ça donne. C'est un extrait du Bal des Casse-Pieds. À bientôt, Michael Dian.
À bientôt, merci.
Un extrait de la bande originale du film Le Bal des Casse-Pieds, musique est signée Vladimir Cosma, arrangé ici pour mandoline et accordéon, avec Vincent Berdemander à la mandoline, Grégory Daltin à l'accordéon, deux artistes qui seront donc en concert ce soir dans le cadre du festival de Chailleul. Et puis je profite de cette musique de Vladimir Cosma pour vous rappeler que c'était notre invité vendredi dernier, un entretien que vous pouvez réécouter sur francemusique.fr. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 8h20, c'est l'heure de faire le tour du programme des concert de la journée sur France Musique. À 16h, Christophe Dillis vous proposera un concert enregistré à Bruxelles dans le cadre du festival Musique 3, le festival de nos confrères de Musique 3 à la RTBF, avec le pianiste Nelson Görner qui joue l'intégrale du cycle de la suite Iberia d'Isaac Albéniz. Et puis l'événement, c'est ce soir de 20h à minuit avec Benjamin François qui sera en léger différé depuis le festival de Bayreuth en Allemagne, festival Wagner bien sûr, avec avec les maîtres chanteurs de Nuremberg, avec la voix de Michael Fohle, de Georg Zeppenfeld, de Tansel Axeybeck, le chœur et l'orchestre du festival de Bayreuth, sous la direction de Philippe Jordan. Alors, amis wagnériens, ce rendez-vous, c'est pour vous. Ça commence sur France Musique ce soir à 20h.
Thank you.
chevauchée des Valkyries par l'Orchestre de l'Opéra National de Paris sous la direction de Philippe Jordan. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 8h26.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'été des frères Jacques.
Alors qu'est-ce que c'est?
Ce que c'est beau, la photographie. Les souvenirs sur papier glacé électrise.
Alors si vous étiez à l'écoute de France Musique samedi soir, vous avez peut-être profité du magnifique retour d'Ulysse en sa patrie de Monteverdi. C'était en direct du festival de Beaune. Eh bien, à cette occasion, je voudrais vous parler de l'un des albums mythiques, sans mauvais jeu de mots, des Frères Jacques, qui est en fait la reprise en intégralité d'un album de Risset Barrier et de Bernard Leloup intitulé Mythologiste, un album de 1978 où les auteurs s'amusent à tourner en dérision tous les grands personnages, toutes les grandes figures de la mythologie gréco-latine, comme Diane, les Heures, les Amazones, les Muses, Écho et Narcisse, la boîte à Pandore, Hermaphro, Psyché ou encore Pénélope, la compagne d'Ulysse, justement, dont ils remettent en doute sérieusement la fidélité. Pénélope, les frères Jacques.
C'est une salope.
Grand rabot à poignet qui se manie à deux mains.
Pénélope dans son village est penchée sur son ouvrage. Elle enfile un fil dans un petit trou. Elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe. En fil d'or, en fil de soie, un linceul pour son papa. En attendant qu'Ulysse revienne, la guerre de Troie et des Troyennes.
Oui, on parle toujours de sa fidélité, mais en fait on ne sait pas ce qui s'est passé.
C'est...
car il ne faut pas oublier qu'elle
avait 120 mecs à côté.
Pénélope,
Pénélope,
c'est une salope.
Terme d'encouragement adressé à un cheval.
Les indices, elle est fidèle. La vertu, c'est le modèle. Les autres n'ont que mot à la bouche. Elle couche, elle couche, elle couche, elle couche. Ses volets restent fermés. Qu'est-ce que ça peut bien cacher? Est-ce pour le deuil de son mari ou pour cacher ses appétits?
Oui, quand un époux s'en va pendant 10 ans, laissant sa femme avec son prétendant, c'est qu'il est vraiment inconscient
ou qu'il s'en fout éperdument.
Pénélope,
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 c'est une sainte,
une sainte,
une sainte,
mais si elle fâte,
c'est une carotte. Plante potagère à racines pivotantes, riche en sucre.
Prenait-elle pour rester seule du bromure dans son tilleul? Et plutôt que des hommes dans sa couche, des douches, des douches, des douches, des douches, on ne le saura jamais. Dès qu'Ulysse réapparaît par un orgueil bien masculin, du supplément de tous les témoins.
Oui, la Pénélope l'a bien laissé faire. Ni vu ni connu, je t'embrouille mon pépère. Avec du fil et une aiguille,
c'est fou ce qu'une femme vous entendit.
Pénélope,
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 c'est une
sainte,
une sainte,
mais si elle fâte,
c'est une philanthrope.
Personne qui aime tous les hommes.
Pénélope, une drôle de vision de la mythologie grecque. Pénélope, une chanson de Risset Barrier et de Bernard Leloup, interprétée par nos chers frères Jacques. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Et il est temps d'accueillir notre invité du jour. Il est compositeur de musique pour l'image en grande partie du temps. Il s'appelle Mathieu Lambollet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clément.
Vous avez signé récemment la musique de Lupin, cette série dont la deuxième saison vient de sortir au début de l'été sur Netflix. Une série de Louis Leterrier, Hugo Gélin et Marcella Saïd. Alors c'est un peu, j'allais dire, c'est la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a 10 000 autres projets en cours récents. On va revenir sur tout ça. Mais c'est Lupin qui nous intéresse en priorité ce matin. Comment ça s'est fait? C'est Netflix qui est venu vous chercher?
Alors, non, en fait, c'est par l'intermédiaire de mon agent. Mon agent a entendu parler du projet. Et comme ça se fait assez régulièrement dans le métier, Netflix a voulu tester des compositeurs. Donc, ils ont fait un appel d'offres. Et donc, je faisais partie des compositeurs choisis. Et j'ai donc eu deux séquences sur lesquelles j'ai pu composer une musique. Et il se trouve que sur l'une des séquences, j'ai composé le thème principal de Lupin et ça a plu à Netflix. Donc voilà,
ah oui, c'est un peu comme les concours d'architectes, quoi.
Un petit peu.
Il faut faire une maquette et puis.
Exactement, on fait des maquettes. Alors évidemment, on n'enregistre pas de vrais musiciens, on fait des maquettes sur ordinateur, ouais. Mais pour donner un petit peu l'esprit de ce qu'on imagine sur la musique.
Alors c'est quoi les différentes ambiances, les couleurs, les genres musicaux que vous avez choisis pour la série Lupin? Parce que c'est un personnage qui est daté. À l'origine, début du siècle, mais qui est rendu contemporain par la série parce qu'il est actualisé dans le Paris d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai entendu parler de la série, je me suis évidemment intéressé au scénario et à l'approche même, disons, de la réalisation. L'idée, c'est que je voulais figurer ça dans la musique, c'est-à-dire, comme vous le dites, cette approche à la fois historique. Donc il se trouve que moi j'ai un bagage classique issu de la musique du répertoire, donc j'ai voulu distiller quelques touches de répertoire de la musique symphonique classique tout en l'inscrivant dans une temporalité qui est contemporaine. En l'occurrence, j'ai utilisé des rythmiques un petit peu modernes, hip-hop, et je trouvais que le mariage entre les deux fonctionnait bien.
C'est un petit peu une chose qu'on retrouvait déjà quand vous aviez fait la musique du Retour du héros. Il y avait aussi cette multiple temporalité.
Oui, c'est ça. Sur le Retour du héros, effectivement, c'était un mélange de western, de son western avec de la musique baroque. Je trouve que s'il y a un lieu où on peut bien s'amuser, c'est dans la musique de film. C'est-à-dire que on peut tester plein de choses et je pense que de mélanger des esthétiques apporte une modernité, une originalité. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un film, c'est pas comme dans la musique de concert ou la musique contemporaine. Disons que l'esthétique reste assez formelle harmoniquement. Je vais pas rentrer dans les détails techniques musicaux, mais on a quand même un cadre duquel on ne peut pas trop sortir, puisque dès qu'on va faire des accords peut-être un peu compliqués, tout de suite ça va évoquer quelque chose avec l'image, c'est-à-dire une musique peut-être angoissante, ou alors dès qu'on fait un accord de septième, c'est jazz. Il y a des réflexes, enfin disons des inconscients collectifs qui nous amènent, voilà. Et donc au sein de comme ce cadre formel harmonique est assez figé, eh bien on s'amuse d'une autre façon, c'est-à-dire dans les couleurs, dans les mélanges, dans les orchestrations. Dans les thématiques.
Alors dans les thématiques, justement, dans les thématiques qui caractérisent aussi les personnages, est-ce que comme Wagner, vous avez choisi des thèmes pour chaque personnage, des leitmotivs?
C'est exactement l'idée, oui, j'en parle souvent, c'est ça. Il y a des inflexions mélodiques, enfin bon, il y a les thèmes, mais il y a quelques inflexions mélodiques qui correspondent, qui caractérisent les personnages. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que j'ai pu les exposer de façon assez claire sur les premiers épisodes et par la suite les développer, notamment sur une scène de l'épisode 10 qui est beaucoup plus symphonique et concertante, dans laquelle j'ai mélangé tous ces thèmes dans une symphonie qui est jouée au Châtelet.
Et le thème de Lupin, il est né comment ? Il vous est venu d'un seul coup?
C'est compliqué, c'est les inspirations parfois, oui, ça vient un peu comme ça. Il y a un petit côté, disons, il y a quelque chose d'assez chromatique et un peu sinueux dans les contours mélodiques du thème. Je pense que c'est d'une certaine façon le personnage qui m'a inspiré ça, oui.
Lupin, ce gentleman cambrioleur.
Thank you.
Lupin, un extrait de la bande originale de la série du même nom. La musique est signée Mathieu Lambollet. La série est sur Netflix. La deuxième saison est sortie tout début juillet. Mathieu Lambollet, est-ce que c'est très différent de travailler pour un film, un long métrage, et de travailler pour une série avec plein d'épisodes, des heures entières de films?
Alors oui, effectivement, c'est différent dans la mesure où il y a beaucoup plus de musique. Là, sur Lupin, il y a peut-être 400 minutes de musique sur la première...
400 minutes de musique?
On se rend pas forcément compte, mais il y a entre 35 et 40 minutes de musique par épisode. D'ailleurs, c'est intéressant parce que parfois on me dit « Ah bon, j'ai pas remarqué la musique, il y a autant de musique ». Finalement, je le prends comme un compliment, puisque quand la musique s'inscrit parfaitement avec l'histoire, c'est ce qu'on recherche quand on écrit de la musique de film.
400 minutes de musique, j'espère que vous n'êtes pas tout seul, vous avez des gens qui vous aident un atelier.
À composer, non, je suis j'ai envie de dire malheureusement, mais non, c'est pas vrai, je suis très content de composer tout seul. Mais effectivement, après, quand il s'agit d'enregistrer, de mixer, de monter, parce qu'évidemment, disons que dans une série, il y a certains passages qu'on va quand même réutiliser, mais pas de la même façon en fonction des passages, mais je travaille avec des gens, je suis pas tout seul à tout faire, non, c'est impossible dans ce métier-là, on peut pas tout.
Comme Michel-Ange à l'époque, il avait son atelier.
C'est-à-dire que oui, pour produire de la quantité, il faut quand même être voilà.
Bien sûr. D'ailleurs, comment ça fonctionne? On vous envoie toutes les images avant, toute la série montée avant, et puis on vous dit travailler de là-dessus, ou on vous demande parfois de la musique.
Oui.
Sans que vous sachiez très bien ce qui va se passer.
Justement, vous me demandiez la différence. J'ai pas répondu à votre question entre peut-être un long métrage et une série, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que sur un long métrage, on va généralement travailler très très en amont, enfin ou tout du moins pendant le montage et main dans la main avec le réalisateur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de versions de montage, on va tester des choses sur certaines scènes, le réalisateur va venir au studio, nous dire ah ben là tu es sûr que tu préfères pas qu'on fasse ça, etc. Là sur Netflix, comme il fallait aller très vite, on recevait les épisodes montés avec pour certains épisodes des musiques que j'avais composé parfois sur les premiers épisodes, mais bon, qui fonctionnait pas forcément, donc je réajustais. Mais disons que j'avais les musiques, les épisodes déjà montés, et je composais là où je voulais de la musique. J'envoyais ça sur une plateforme sécurisée, puisque évidemment tout ça c'est très très voilà,
surveillé, bien sûr, paquet de fuite.
Non, exactement. Et ensuite j'avais la validation d'une part du réalisateur, des producteurs Gaumont et Netflix, et ou des retours, c'est-à-dire en fonction des passages, peut-être Netflix m'envoyait un mail en disant oh là, il faudrait que ce soit un peu plus mystérieux. Voilà, c'est tout.
C'est vraiment travail à la chaîne.
C'est travail à la chaîne, mais à la fois il y a une grande liberté, parce que là où sur un long métrage, parfois, un réalisateur va nous enquiquiner à la note près. Là, on a une grande latitude, disons, pour interpréter le mystérieux posé par Netflix sur une séquence. Donc, c'est intéressant.
Mathieu Lambollet, vous disiez tout à l'heure, oui, quand je dis qu'il y a 400 minutes de musique, les gens s'en rendent pas forcément compte. Ça me fait penser à cette anecdote de George Lucas, le réalisateur de la saga Star Wars, qui avait dit à un de ses monteurs un jour qu'il s'arrachait les cheveux sur une scène d'effets spéciaux. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les gens ne regardent pas les effets, ils écoutent la musique. Alors, est-ce que c'est le cas dans Lupin? Est-ce que vous sentez qu'à certains moments, c'est votre musique qui est le personnage principal ou qui prend en charge un certain nombre d'émotions?
Ce serait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais...
En tout cas, de manière générale au cinéma.
De manière générale. À mon sens, la musique a quand même un rôle, et c'est bien d'en parler. D'ailleurs, je vous remercie d'inviter dans cette émission
d'inviter
des
compositeurs.
Non, mais c'est bien de parler de musique de film, effectivement, parce qu'on est considéré comme un des auteurs du film. On est trois avec le scénariste et le réalisateur. Et effectivement, la musique a son rôle, c'est-à-dire que parfois il faut faire l'expérience, on le fait très rarement, mais de mettre une scène sans musique et puis mettre la musique après, on se rend compte que la scène prend une autre dimension et on peut très bien la rendre absolument terrifiante comme imprégnée d'une émotion telle qu'on a envie de pleurer C'est pour ça d'ailleurs que les réalisateurs ont peur parfois des compositeurs. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des réalisateurs qui aient peur dès que je rajoute un accord, parce que ça change complètement le propos et l'image. Et donc, il y a un vrai pouvoir, c'est sûr. Et je pense que dans Lupin, j'ai en tout cas cherché à créer une identité Et qui, je l'espère, par la suite, s'inscrira dans les autres saisons.
Alors, on va signaler quand même une chose, c'est que la bande originale de Lupin, vous l'avez enregistrée avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Oui. C'est l'instant cocorico, parce qu'on a l'impression que toutes les musiques de films aujourd'hui sont enregistrées avec des orchestres d'Europe de l'Est, voire sans musiciens, parfois avec des sons de synthèse. Alors bon, vous nous expliquez, enfin vous nous démontrez, Mathieu Lambollet, que c'est possible. On peut faire de la musique de film avec les orchestres français.
C'est possible. Après, je mesure vos propos, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout enregistré non plus avec l'ONDIF. On a effectivement, on trouve des solutions. C'est-à-dire, bon là, après il y a certaines considérations budgétaires qui sont pas indéniables. J'essaye au maximum d'enregistrer avec des musiciens en France, parce que on a d'excellents musiciens et je trouve dommage de pas en profiter.
Mathieu Lambollet, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la scène des diamants, hein, ça.
C'est la scène des diamants, oui. C'est là, voilà. Je me suis amusé à mélanger une sorte d'électro James Bond, Stravinsky. J'avais envie de. Comme vous parliez de mélange tout à l'heure, mais j'aime bien faire des mélanges. Et là, je trouvais intéressant d'apporter le côté rythmique de musique moderne qu'on pouvait l'avoir sur le sac du printemps, par exemple. On l'entend un petit peu avec des rythmiques électro.
C'est un peu de la mixologie, tout ça. Hein.
C'est de la mixologie.
Mais le cocktail, ça peut être raté. Et là, en l'occurrence, ça marche.
Mais c'est gentil.
Mathieu Lambollet, la musique de la série Lupin, dont la deuxième saison est sortie sur la plateforme Netflix au début du mois de juillet. Alors, il n'y a pas que ça, je disais tout à l'heure. Il y a un millier d'autres projets. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Comment on accepte un film ou est-ce qu'on refuse parfois un film? Sur quels critères? Ça vous arrive de dire non, parfois?
Ah oui, ça m'arrive de dire non.
On vous sollicite pas mal hein, maintenant.
Oui, c'est vrai qu'en surtout cette année là, c'est vrai que ça il y a beaucoup de propositions. J'avoue que j'ai du mal à dire non, hein, parce que
c'est pour ça que vous avez autant de projets.
Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que chaque projet. Alors généralement, on lit le scénario. Hein, c'est ce que je fais. Je lis le scénario. Je regarde la configuration aussi, les acteurs. Si le film est juste un projet et qu'il a pas l'intention de se faire, enfin, je vais pas m'engager sur quelque chose. Voilà. Mais globalement, c'est pas évident de dire non, puisqu'il y a beaucoup de beaux projets qui se font, et c'est aussi j'accepte quand je rencontre les réalisateurs et que je sens qu'il y a une vraie fibre artistique et qu'on peut bien s'entendre, parce que quand même composer de la musique de film, c'est avant tout une collaboration avec un réalisateur. Donc si dès le départ ça fonctionne pas, c'est rien de s'engager sur quelque chose qui risque d'être compliqué, quoi.
Ouais. Alors il y a eu récemment la musique du film de Wistram, oui, qui était l'adaptation du livre d'Emmanuel Carrère, un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Vous y étiez?
Oui, j'y étais.
Alors est-ce que le film a été bien reçu?
Le film a été très très bien reçu et la musique aussi, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on remarque pas souvent la musique, et là j'ai eu beaucoup de très bons retours et je me suis vraiment amusé à composer cette musique. Enfin, amusé, c'est peut-être pas le mot, mais disons, j'ai pris du plaisir à travailler avec Emmanuel. Et je crois que le film sort en janvier et j'espère que les gens pourront en profiter pleinement.
Ouais, c'est comment le Festival de Cannes ? On dort pas beaucoup, j'imagine ?
Alors, à vrai dire, moi, c'était la deuxième fois que j'y allais, mais j'y suis allé il y a une dizaine d'années, je connaissais pas très bien. Alors non, j'ai très bien dormi, parce que je ne suis pas allé aux soirées.
Fait de fête.
J'ai pas fait de fête.
Ils disent tout ça. Alors, on voit toutes sortes d'images avec des grandes fêtes, et puis quand on interviewe les gens, ils nous disent « Oh non, moi, je vois les films à 8h du matin, et je vais pas du tout aux soirées. »
Mais c'est vrai. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Je suis resté deux jours, donc l'avant-première, un dîner, et après, à minuit, une heure, on est au lit. Enfin, moi, je suis pas allé aux fêtes, il y avait pas d'ambiance cette année.
Bon, en tout cas, il y a moins de pression, en tout cas, pour les compositeurs, parce qu'il n'y a pas de prix à Cannes pour la musique.
Alors oui, ça, j'espère que ça va changer. Je crois que les lignes vont bouger un petit peu. Ce serait bien, quand même. Comme on le disait tout à l'heure, la musique est auteur, on est auteur quand on compose de la musique, et puis elle a quand même son. Je pense qu'elle aura une place à Cannes.
On espère. Ça, c'est juste un extrait de cette grande symphonie de Lupin. C'est dans la saison 2, c'est une scène importante. On ne va pas tout dévoiler, Mathieu Lambollet. La série est disponible sur Netflix. D'ailleurs, je crois que vous apparaissez dans la saison 2. C'était prévu,
oui.
Ça ?
Alors non, ce n'était pas du tout prévu, mais ça s'est fait comme ça. J'ai un tout petit rôle à l'épisode 10, sur cette fameuse scène avec la symphonie qui se passe au Châtelet. Mais on ne va pas en dire plus.
On ne va pas tout dévoiler. Est-ce que ça vous donne envie de développer une carrière d'acteur, Mathieu Lambollet ?
Ah oui, tout à fait. je pense que je ne pourrais pas être acteur dans la mesure où il faut savoir que ça fait rêver les gens, mais ce qui se passe concrètement, c'est qu'on attend. On attend sur un plateau de tournage, c'est l'horreur. On passe 10 heures, on boit des cafés, et tout d'un coup, les acteurs, je suis un tout petit rôle, mais pour les acteurs, c'est ça, c'est hop, il faut être tout de suite on the set, 10 secondes, et hop, et après on retourne dans sa loge, on attend pendant des heures, c'est terrible.
C'est un horrible métier, ça, que vous me décrivez. Mathieu Lambollet, vendredi, je recevais Vladimir Kosma à votre place, autre grand compositeur de musique de film. C'est un modèle pour vous, vous l'avez rencontré déjà ?
Je l'ai rencontré effectivement il y a très longtemps. C'est un grand. Donc je le connais pas personnellement, mais moi je connais ses musiques évidemment.
Ouais. Votre carrière, elle était déjà bien lancée, Mathieu Lambollet. Alors là, avec le succès planétaire de Lupin, c'est incroyable, hein, série française la plus regardée aux États-Unis, dans le pays quand même de Netflix. Alors là, vous allez bientôt monter votre studio à Los Angeles, non?
Alors c'est pas prévu, mais en l'occurrence, effectivement, j'ai un agent américain maintenant. Ouais. Donc l'idée, c'est de de voir si certains projets peuvent venir par des États-Unis, mais après moi j'ai pas forcément le rêve américain absolu, c'est-à-dire que je trouve qu'on fait des très bons films en France et j'accepterais tout type de projet qui viennent des États-Unis ou de la France.
Et puis vous avez déjà pas mal de boulot. Est-ce qu'on peut dire on peut donner déjà quelques projets qui sont en cours?
Oui, complètement. Effectivement là en ce moment je travaille sur Juste Ciel, donc le prochain film de Laurent Tirard. Je travaille également sur Les Têtes Givrées, un très beau film de Stéphane Cazès avec Clovis Cornillac. Et par la suite, j'ai un autre projet prévu avec Gamblin et Dussolier, donc Le Tigre et le Président. Mmh. C'est un très beau film. Et
Jean-Marc Perfitte.
Voilà, Jean-Marc Perfitte. Après, il y a d'autres projets, mais je...
Il y a plein de choses, on ne peut pas en parler. Évidemment. Et on va se quitter, Mathieu Lambolet, si vous voulez bien, avec votre toute première musique de film de l'histoire de votre carrière.
Libre, la première de long métrage en France. C'est effectivement Libre Assoupi qu'on avait. Alors ça, c'est alors pour commencer, c'était la plus belle expérience puisque j'ai pu enregistrer à Abbey Road avec le LSO. J'avoue que ça m'a tout de suite donné envie de continuer.
Et ben on va en écouter un extrait. Merci d'être venu nous voir ce matin sur France Musique.
Merci Clément.
Marche tranquille, c'était le générique de Libre et Assoupi, la musique est de Mathieu Lambolet qui a signé aussi la musique de la série Lupin qui est à voir sur Netflix où d'ailleurs sera disponible dans quelques jours maintenant, le 30 juillet, c'est dans 4 jours, ce sera jeudi, le film Le Dernier Mercenaire, long métrage avec Jean-Claude Van Damme et David Charbon, ce sera donc à retrouver dans quelques jours, plein d'autres projets, Le Retour du Héros, j'en ai parlé, on s'était d'ailleurs vu à l'époque avec Mathieu Lambolet dans la matinale du samedi matin avec toujours ce côté très héroïque dans sa musique d'ailleurs. Et c'est la fin de cette émission. Alors après George Lucas de Star Wars qu'on évoquait tout à l'heure, il y a Georges Lacaux de Villeurbanne qui fait partie de nos gagnants ce matin avec Bernard Clos de Nivillac dans le Morbihan et Anne-Marie Vallet de Voiron, c'est dans l'Isère. Tous les trois recevront un extrait, non pas un extrait mais le disque entier, Mantra de Stockhausen avec Jean-Frédéric Neuburger et Jean-François Esser. Alors la réponse à la question du jour c'était le quatuor Arditi, à l'origine la commande du festival de Salzbourg d'un quatuor à cordes de Stockhausen. Le festival de Salzbourg s'était finalement montré un peu timide. Et c'était l'année suivante, en 95, qu'Helicopter Streich Quartet avait été créé au Holland Festival d'Amsterdam. Les Néerlandais avaient moins froid aux yeux que les Autrichiens en voyant ces quatre hélicoptères avec chacun des membres du quatuor jouant à bord de l'un des quatre hélicoptères. C'est un truc un peu fou. Voilà. Allez, bien sûr, vous restez à l'écoute de France Musique. La journée commence à l'instant, c'est-à-dire à 9h, avec Charlotte Landru-Chandès cette semaine pour l'été classique. Bonjour Charlotte.
Bonjour Clément.
Charlotte, le programme du jour ?
Eh bien, aujourd'hui, on va rêvasser en compagnie de compositeurs connus, Gounod, Debussy, Wagner, aussi moins connus, par exemple Anton Rubinstein, et à 11h, coup de projecteur sur la mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter.
Ah, bah vous aurez une mezzo-soprano, on en aura une, nous aussi, demain, Charlotte Landru-Chandès, puisque je serai en compagnie de Lucille Richardot pour parler de son été musical et aussi d'un projet autour des cantates inédites d'Alessandro Scarlatti. Je vous retrouve donc demain matin, dès 7h30 sur France Musique. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe du jour, Laure Poissonnier et Lara Castiglione qui ont préparé cette émission, réalisée par Taïsia Froidure avec à la technique ce matin Maxime Deperetti, Fred Kiefer et un certain AB. Je vous souhaite une très bonne journée sur France Musique. Je vous dis à demain et je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.